popo, polo, popo, po. Et la brique, c'est de la merde, toi-même, tu sais. Popo, polo, popo, po, 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 polo, popo, po, 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 po.
www.libradio.org, la radio qui fume du Schmitt et qui kiffe pas les keufs.
Bienvenue Louisa, bienvenue Noémie. Vous êtes ici, vous êtes de Lausanne tout d'abord et je vais vous demander ensuite évidemment de vous présenter un peu plus à fond. Vous êtes ici parce que nous allons parler édition et Dieu sait si le travail d'éditrice et d'éditeur est compliqué dans une époque qui est un petit peu dont on sait que le livre pourrait être en péril. Est-ce que vous aurez envie de réagir déjà à cette première remarque? Est-ce que le livre, le papier, est-il en péril ou en fait pas du tout?
Pour moi, c'est Noémie. La question, c'est numérique, livre numérique versus livre papier.
Voilà.
Moi, je participe aux exercices professionnels de l'édition du Salon du Livre depuis 4 ans, donc le Salon du Livre de Genève. Et chaque année, c'est la même question. Le livre numérique, va-t-il supplanter le papier, etc. Le virage numérique, mais en fait, on parle de ce virage numérique depuis 20 ans. Et une sorte de panique et de frilosité dans le monde littéraire, qui quand même, on va pas se le cacher, est un monde assez élitiste. Moi, je pense que le numérique, en fait, est un complément et n'est pas une menace pour le papier. On voit aussi très bien que les gens continuent d'offrir des livres papier à Noël parce qu'on peut pas emballer... Enfin, on peut emballer une tablette, oui, on préfère ça. On peut emballer une Kindle, mais on peut pas... Enfin, on le fait une fois, après on peut en offrir d'autres. Mais donc non, pour moi c'est complémentaire, et puis le travail d'éditrice, d'éditeur, c'est un travail artistique. On décide de faire du papier parce que c'est le papier qu'on aime, mais dans les faits, ce qu'on aime surtout, c'est la fiction, et le numérique permettrait, mais ça on n'a pas les moyens de le faire pour l'instant, mais de créer des projets de livres numériques, d'histoires numériques absolument géniaux que le papier ne permet pas, par exemple. Mm-hmm. Donc bref, pour moi c'est... Non, je ne me sens pas menacée.
D'accord. Louisa, pour compléter cette question, et on verra ce que toi tu en dis, alors selon toi, il n'y a pas ce choc des civilisations entre l'avant-numérique et l'après-numérique concernant la chose écrite, le livre, et y aurait-il peut-être là alors un problème générationnel avec effectivement des très jeunes qui arrivent maintenant et qui sont du coup frileux au devant du papier, mm-hmm. et plus à l'aise avec justement des médias électriques. Je parle vraiment des adolescents d'aujourd'hui. Qu'en penses-tu?
Alors, moi, je ne suis pas du tout du domaine de l'édition. Du coup, moi, je vois vraiment avec les yeux de l'illustratrice que je suis. J'ai l'impression qu'en fait, la fissure, elle est moins présente que ça, parce que je crois que les jeunes sont quand même dans cette optique de décroissance, et que peut-être qu'ils savent aussi faire la part des choses entre le bouquin objet, puis le bouquin fictif, et le potentiel qu'offre le numérique. Puis moi, je trouve que c'est quand même très beau ce qu'on peut faire maintenant avec le numérique, même si y a des dérives comme partout. Et je crois que aussi la génération senior s'habitue gentiment à la tablette, et puis je trouve que c'est plutôt plus qu'une séparation. Je trouve qu'on arrive à un stade où c'est plutôt quelque chose se regroupe. Il y a moins de fissures générationnelles. Enfin, de ce que je vois dans mon entourage, hein, c'est vraiment...
Très bien. Ben, je trouve que c'est déjà sympa comme première réponse que de se dire qu'on n'est pas dans une perspective un petit peu de lutte à mort entre une chose et l'autre, mais qu'au contraire, on peut très bien imaginer que les choses cohabitent. En tout cas, pour le vinyle, on peut voir d'ores et déjà là, parce que là, on a du recul, hein, on a plusieurs décennies de recul, que finalement, peut-être même que le CD fonctionne moins bien que le vinyle actuellement.
Oui, je pense. Ouais. Qui fait encore des CD?
En fait, si, nous récemment on a interviewé des groupes très jeunes, mais ils retournent à ça parce qu'ils trouvent que l'objet est sympa, et puis du coup effectivement
c'est vintage,
ça permet
pour eux, en fait.
Oui, en fait ils n'ont jamais vécu vraiment le CD.
Mais c'est exactement
c'est
ça.
Comme nous le vinyle.
Mais c'est exactement ça. Non, et puis il y a un travail de, nous on le disait, pour les picture discs, voilà, pour les pochettes des vinyles, que justement il y avait des illustratrices qui bossaient dessus, c'était bien intéressant. Et ben ils disent ça pour les CD, donc c'est sympa aussi. Le temps est venu que vous vous présentiez. Qui est-ce qui commence? Noémie, peut-être?
Noémie, oui.
Allez.
Celle de la chef.
C'est clair. Vous allez comme ça. J'allais vous questionner si vous saviez une organisation.
La chef et le bouffon.
Allez. La bouffonne, féminise un peu, s'il te plaît.
Nous avons donc une
femelle.
C'est une organisation pyramidale. Très bien, très bien.
Non, alors, donc moi, je suis effectivement la co-directrice de Paulette Éditrice. Mon collègue, c'est Guy Chevalet. Donc on n'a pas fondé la maison, parce que la maison a été fondée en 2009, c'est-à-dire il y a 10 ans, par Sébastien Meyer, qui en fait en 2005 était un peu épuisé. Et puis moi, c'était le contraire pour moi. Je commençais à me dire que l'édition, ça m'intéressait beaucoup et je voulais avoir mon propre projet. Donc il nous a laissé la main de la direction de Paulette. Donc là, voilà, je travaille avec Guy. On est co-directeur, co-directrice. Lui, il s'occupe... Après, on a des spécialités. Moi, je suis plus communication. Lui, il est plus administration. Mais au niveau du travail sur les textes ou sur les illustrations, enfin sur accompagner les auteurs et autrices, là, on fait ça les deux de façon très égalitaire. Et puis, la ligne de la maison, les projets à court, moyen et long terme, on les décide à deux. Et puis voilà. Puis Louisa, on a vu ses dessins, on a voulu les... Puis on s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose. C'est comme ça que je passe le relais.
Voilà.
Merci.
Alors Louisa, à ton tour.
Alors ils ont vu mes dessins.
Dans la rue.
Dans la rue. Par terre, comme ça. Non. Moi, c'est vrai que je suis illustratrice depuis un moment maintenant, depuis 12-13 ans. Je bossais beaucoup pour l'institutionnel et pour la presse. Et j'ai commencé à faire un travail plus personnel. Et puis c'est là, je pense, que les éditions Paulette ont trouvé le travail intéressant. Parce que c'est vraiment un recueil de dessins de... un peu mon journal intime, enfin intime, plus ou moins intime, et puis je trouvais que ça se prêtait vachement bien au PIV, parce que c'est des petits formats, c'est très intime, c'est ces petits objets qu'on aime bien, sur lesquels on aime bien revenir, et puis je trouvais que ça s'y prêtait bien. Alors quand ils m'ont proposé, c'était go direct.
Avant cela, c'était compliqué de justement trouver de quoi diffuser ton travail ?
Non, j'ai toujours eu de la chance parce que j'ai beaucoup diffusé depuis l'âge de 13 ans sur le web. Mm-hmm. Et puis j'ai eu beaucoup de visibilité. C'est pas mes premières publications. Mais c'est ma première publication de recueil comme ça où c'est un livre vraiment que de mes dessins. Mm-hmm. Mais j'ai déjà fait 2-3 expos dehors de la presse éditoriale.
Bacchus. Quels sont les rapports que l'on installe quand on est artiste et que l'on doit fonctionner avec une éditrice?
Alors, j'aimerais dire qu'on a des très bons rapports. <Ça va. rire> on se connaît en dehors du travail. Du coup, c'est vrai que c'est un peu aussi peut-être... je pense que Noémie, elle répondra mieux que ça, que moi, à cette question. Mmh. Parce que c'est vrai que comme je suis illustratrice, j'ai moins ce rapport éditeur... auteur,
ouais. Non, mais ce que j'aurais voulu savoir de ton côté, puis effectivement, ouais. Cette question c'est pour toutes les deux, c'est concernant justement ton travail artistique, est-ce qu'il y a d'une manière ou d'une autre quand même une intervention de la part de l'éditrice qui va porter un regard extérieur en disant, tiens, pourquoi pas orienter, tu vois, ouais. Mais suggérer des choses.
Dans ce cas-là, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un peu carte blanche. Est-ce que je leur ai proposé, leur a plu? Je pense qu'ils ne se seraient pas gênés de me dire si c'était pas, ça convenait pas à l'image, parce que je sais que Paulette a quand même une image très précise. Et puis, mais j'ai eu de la chance parce qu'ils m'ont fait entièrement confiance et je leur ai fait aussi entièrement confiance. Alors, je crois que des deux côtés, on est assez content du résultat. Mm-hmm. Mais je pense que Noémie, elle sort. Oui. Elle fait la grimace. Elle n'est pas contente du tout.
Non, mais Noémie, c'était justement de savoir si effectivement on fonctionne plus comme des bulles séparées lorsque l'on édite le travail d'une artiste ou est-ce que ces bulles ont des champs communs.
Les patates de veine.
Ouais, exactement. Les diagrammes de veine.
Voilà. Les patates.
Oui.
En fait, c'est vrai que le recueil de Louisa qui s'appelle Ça rendait mieux dans ma tête, qui donc vient de paraître, c'est la première fois qu'on publie des illustrations, un carnet de dessins. C'est la première fois qu'on fait ça. D'habitude, on fait de la fiction courte, des fois avec, la plupart du temps avec des auteurs vivants, parfois avec des auteurs morts. Alors quand c'est des auteurs morts, ils font pas chier. Donc,
c'est plus facile.
C'est nous qui décidons ce qui est bon ou pas et qu'on sélectionne des œuvres anciennes libres de droit. On a fait ça trois fois. Puis autrement, c'est vrai qu'on a l'habitude du travail du texte. Mon collègue et moi, enfin Guy Chevalet et moi, on vient du texte. On a les deux travaillé en maison d'édition. On a tous les deux une pratique d'écriture par ailleurs. Donc on est beaucoup plus habitués à faire ce travail de comprendre qu'est-ce que c'est l'histoire, qu'est-ce que c'est le style, comment les deux se répondent. Là, on était face à quelque chose où c'est fragmentaire, c'est des éclats, c'est de la spontanéité. Puis c'est exactement aussi pour ça qu'on voulait aller vers ça. Mais c'est vrai que c'était difficile pour nous, ne pratiquant pas le dessin. Pas lui dire, c'était absolument absurde de dire « Non, mais ce dessin, il n'est pas très beau. » C'était pas ça.
Il y a des dessins que tu n'as pas trouvé très beaux. on en parle.
Eh ben, tu vois, venir à la radio, finalement, c'est un peu comme un confessionnal.
Oui, c'est ça. Il y a des choses qui vont se révéler. Mais la vie, c'est pas beau.
En page 17, j'ai trouvé moche. Dis-le.
Elle... 17. On non, va blague à plat, pardon, il y a aussi des, en fait, il y a aussi de l'écrit dans ces, dans ce, dans ce recueil de dessins. Il y a aussi des fulgurances poétiques.
Oh merci.
Mais, écoute, c'est ce qui est noté dans le communiqué de presse, mais
obligé derrière de confirmer le communiqué
fulgurance
de presse.
Fulgurances
poétiques, c'est vraiment effectivement un champ sémantique de communiqué de presse. J'ai pas lu hein, exprès. On va parler effectivement également de ton univers, hein, Louisa, en lisant la quatrième de couvre, donc le livre « Ça rendait mieux dans ma tête ». Bienvenue dans la tête de Louisa, remplie de listes de courses et de questions philosophiques, d'extraits de chansons pop et de blagues au goût douteux. D'un croquis à l'autre, laissez-vous embarquer. Souvenez-vous seulement qu'on peut rire de tout, trois petits points, sauf du yoga. Eh oui, alors on ne peut pas rire du yoga.
Non, je crois que tout est dit dans cette dernière phrase.
Alors peut-être voudrais-tu décrire un petit peu cet univers...
Le yoga
Yoga inclus.
Alors, l'univers ce sont dans lequel j'habite.
Voilà, exactement. Ma tête. Ta tête, exactement. De quoi a-t-elle habité, ta tête?
De beaucoup de questionnements. Ça va de l'insecte à la mort. Non, je ne sais pas, c'est difficile à dire, en fait, comme disait... Némi, il y a beaucoup de fulgurances poétiques. Mmh. C'est un peu de l'ordre de l'introspection. Il y a beaucoup ben, des petites jokes, des petites références personnelles. Je pense qu'il y a des dessins qu'il y a peut-être deux personnes qui comprennent. D'autres. C'est difficile à décrire. Je pense que c'est vraiment un univers pas particulier parce que c'est quand même assez facile d'accès. Mais c'est, je ne saurais pas dire.
D'accord. On peut dire déjà qu'on peut décrire un petit peu le trait. C'est du crayon.
C'est du stylo.
Pardon, du stylo. Il n'y a pas de couleur.
Il n'y a pas de couleur, non.
Alors, par exemple, pourquoi ces choix-là? Est-ce que c'est venu un petit peu automatiquement comme ça ou...
Oui, voilà. En fait, je travaille beaucoup avec le dessin spontané et intuitif. Je prends un peu ce qui me vient sous la main. Puis en ce moment, ben, depuis une bonne dizaine d'années, je travaille surtout au stylo. Parce qu'en fait, ben, je n'ai pas envie de plus ou besoin de plus. Je dessine vraiment de façon un peu curative. C'est un besoin que j'ai depuis toujours. Et puis, ben, je prends un peu ce qui vient, en fait.
D'accord. La couleur, ça, ce sera peut-être une chose qui pourrait surgir plus loin ou non? C'est vraiment...
Je travaille de temps en temps avec la couleur. En ce moment, je travaille avec un crayon rouge. Mais c'est pas quelque chose... En fait, mes dessins ne sont pas à but esthétique. Alors, pour l'instant, ça ne vient pas forcément à moi. Ça viendra peut-être ou pas. Okay.
Ou pas. Le format, ça, c'est important quand même de le dire. Alors, le livre est un livre petit. Est-ce que c'est à dessein qu'il est ce format-là? Parce que du coup, on peut, comme un carnet et comme un journal intime, le prendre partout avec soi, l'ouvrir à tout moment et puis puiser une petite chose, le refermer et puiser une petite chose plus tard.
Ça, c'est Noémie qui saura vous répondre parce que le format, c'est le format des pives.
Ouais.
Et puis,
bah, tous nos livres ont le même format, exactement le même nombre de pages. C'est en fait un des principes qu'on a mis en place quand on a repris la maison en 2015. En fait, on voulait sortir de la fiction courte. Pour une raison très simple, c'est qu'on voulait faire ce travail, avoir notre propre maison d'édition pour pouvoir faire ce travail éditorial avec les auteurs. Mais pour faire ce travail de façon efficace, il faut du temps, puis du temps, on n'en a pas. Parce qu'on doit travailler à côté, on ne gagne pas d'argent avec ça. Donc on s'est dit, on ne va pas sortir des pavés, on ne va pas sortir de saga familiale ou historique en 5 tomes, ça va pas le faire. De fantasy de 1000 pages, ça va pas aller. Donc on s'est dit de la fiction courte. Pour que nous, on ait le temps de faire ce travail éditorial et d'aller vraiment à fond et très très loin avec les auteurs pour, comment dire, renforcer le texte. C'était aussi effectivement pour le public, parce que ce qu'on voulait, c'était créer des lecteurs et lectrices de nouveautés. Parce qu'on s'est dit, il y a très peu ça, enfin, dans la nouveauté locale, on va dire. Les gens ont peur de la littérature romande. La littérature romande, c'est élitiste, c'est chiant, ça ne s'adresse pas à nous. Donc, on s'est dit, si on a des petits livres comme ça, avec une petite illustration, c'est pas qu'on trompe les gens, mais c'est qu'en tout cas, on les encourage à aller vers ce livre et ça fait moins peur que de dire, ah, mais bon, si j'achète ce roman, ça coûte 30 francs, je ne sais même pas si je vais l'aimer. Enfin, plus personne n'a le temps. Plus personne n'a le temps de lire. Donc, du coup, on veut être sûr qu'on lit quelque chose de bien. Donc, on lit quelque chose qui est médiatisé. Je comprends tout à fait cette obligation. Mais donc on s'est dit, voilà, les pives, c'est pour ça qu'on les a faites petites. Et le fait qu'elles fassent toutes la même taille, c'est aussi pour économiser sur les frais d'impression, parce que du coup on essaye de les imprimer tout en même temps. Donc la machine est réglée une seule fois, c'est pas nous qui le faisons, c'est notre imprimeur Cric à Marly, super imprimeur, parce qu'on imprime en Suisse, ce qui est très
rare. On va revenir là-dessus. Hein. Oui, oui. La question qui suit, c'est qui est Paulette ? Et là-dedans, justement, j'imaginais qu'on parlerait de ces différentes singularités qui habitent les éditions Paulette, qui sont notamment celles d'éditer, d'imprimer localement. Oui. Du coup, je te laisse répondre à cette question. Qui est Paulette ?
Paulette est une éditrice de PIV. Voilà.
Les PIV sont donc ces formats.
Des fictions courtes, voilà. Exactement, vendues sur abonnement. Parce que là aussi, en fait, quand on a repris la maison avec Guy, on s'est dit, on connaissait un petit peu le monde de l'édition pour y avoir travaillé, fait des stages, etc. Et on savait que même à une petite échelle qui est celle de la Suisse romande, on répond aux exigences du marché. Et donc, c'est d'arroser les nouveautés. Donc, on crée de la nouveauté constamment, constamment, constamment. On arrose dans toutes les librairies. Il faut être présent partout en grande quantité pour donner aux gens l'envie d'acheter. Mais en fait, la durée de vie médiatique d'un livre, c'est 3 mois, grand max.
C'est court. Hein,
grand max. Okay. Et donc, en général, les nouveautés, elles changent tous les 3 mois. Donc après, ça, il y a des retours de stock. Et donc, les éditeurs et éditrices, souvent, à moins qu'il y ait une excellente surprise et que le titre se vende bien, détruisent. Parce que ça coûte plus d'argent de stocker des livres.
Oh là,
voilà. Mais après, bon, là, je noircis. Mais disons, il y a quand même ça comme principe. Et nous, on ne voulait pas faire ça. On s'est dit, mais il y a déjà tellement de maisons d'édition en Suisse romande et en France et partout. Pourquoi rajouter quelque chose ? Enfin, pourquoi rajouter la nôtre alors que voilà. Et on s'était dit que, ben, effectivement, le livre, comme c'est un produit culturel, on a tendance à l'abstraire un peu de ben, c'est un vrai objet, c'est imprimé, il existe, il est produit. Mais on a tendance à oublier ça parce que c'est un objet culturel. Donc on ne va pas réfléchir à la chaîne de production, on ne va pas réfléchir aux implications socio-écologiques, économiques, etc. Et donc nous, c'est ça qu'on voulait, c'était instiller ce type de réflexion-là dans le travail éditorial. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à l'impératif qu'il fallait qu'on imprime en Suisse pour limiter les déplacements, mais pour aussi se dire on reçoit de l'argent public, pour des subventions. Donc ça nous paraissait normal de réinjecter cet argent dans l'économie locale, etc. Mais effectivement, ça implique des coûts de production quand même assez élevés. Donc il a fallu aussi trouver des stratégies comme effectivement imprimer tout au même format, essayer d'imprimer en même temps et diffuser par abonnement. Donc on a des gens qui s'abonnent pour 6 ou 3 livres par année, soit la totalité, soit ils en reçoivent 2 tous les 3 ou 4 mois, soit 1. Voilà. De l'abonnement, ça nous permet de savoir combien on doit tirer, de tirer au plus proche de la demande, de ne pas trop stocker. Et puis aussi, ça nous permet de faire des propositions artistiques, éditoriales, que peut-être on n'aurait pas forcément fait s'il n'y avait pas ça. On propose chaque année des textes québécois. Les gens n'ont pas toujours envie d'aller lire, n'ont pas toujours la curiosité d'aller voir la littérature québécoise contemporaine qui est écrite de façon très oralisante québécoise. Et donc ça, on propose ça. Pareil avec les textes qu'on ramène devant le grand public. Là, le texte qu'on a publié en même temps que la PIV de Louisa, c'est Comment son patron tuait les anarchistes de Técombe.
C'est ça qui m'a attiré comme ça. Je me suis tout de suite dit, pour une radio comme ça qui se détermine par rapport à, tu vois, un peu de la mouvance libertaire, il faut qu'on aille absolument fouiner là-dedans.
Ah, d'accord, c'est ça, d'accord. C'est comme ça qu'on se retrouve ici.
C'est exactement comme ça, oui.
Je ne peux pas amener l'autrice parce qu'elle est morte. Donc,
C'est pas grave, le texte transcende et les corps et les âmes et les temps. Vous êtes d'ailleurs ici, c'est pas non plus pour rien, c'est parce que c'est effectivement un endroit d'exposition. Et du coup, je voulais en revenir, comme ça me permet de faire un petit peu de sauter d'une personne à l'autre. Louisa, pour en revenir à ton univers, j'avais encore une question concernant justement le format des dessins. Lorsque tu exposes, quelle taille ont-ils ces dessins ? Est-ce que là, du coup, c'est plus grand ?
Non, c'est tout petit. Non, je dessine très petit.
Ouais.
Et alors, j'expose très petit. Mais maintenant, j'essaie de faire des compositions de très petits trucs pour faire un très grand truc. Mais
comme des puzzles, un petit peu ?
Ouais, puzzle patchwork.
Patchwork, plutôt.
Non,
oui,
patchwork, c'est horrible. Je dis patchwork. non, oui, mais en fait, c'est des espèces de... Mais je vais travailler sur des plus grands formats pour la fin de l'année. Mais c'est vrai que je dessine très, très petit.
D'accord. Lorsque un endroit comme ça, y exposerais-tu par exemple ? Est-ce que cet endroit par exemple convient ou est-ce que justement tu fais attention à où tu vas exposer et comment tu exposes ? Ce que je sous-entends par là, c'est y a-t-il un ordre dans les dessins ? Est-ce qu'il y a un scénario ? Est-ce qu'il y a une scénographie ?
Non, mais je pense que mon univers est déjà tellement fouillis que je sais bien quand c'est un peu. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui demande un peu d'air à côté. Enfin, je suis une folle des marges. Parce que comme c'est très dense, alors j'exposerai peut-être sur mur, un peu au coin, là-bas. Je fais pas forcément gaffe à où j'expose, mais maintenant j'ai une sorte de galerie attitrée dans laquelle je fais entièrement confiance. Le travail d'exposition est très très particulier parce que je trouve que c'est à la fois prétentieux, mais à la fois flatteur. Enfin, c'est assez délicat, je trouve. L'exposition.
Alors, ouais, et justement, ça me permet de te poser cette question-là. À quel moment est-ce qu'on décide entre le moment où on a cet univers à l'intérieur, que l'on contient cet univers, et le moment où on le rend public en l'éditant, en faisant des expos ? Parce qu'il y a une forme de mise à nu. Et puis, on sait que lorsque l'œuvre apparaît, eh bien, elle peut aussi attirer évidemment des compliments, mais également des critiques. Est-ce que ça, c'est un pas qui est dur à franchir ?
Ah, moi, je le franchis à 13 ans parce que moi, je suis vraiment dans le genre regardez ce que j'ai fait, regarde, maman, regarde. Et puis, du coup, ça n'a jamais été un problème. J'ai toujours été beaucoup sur les réseaux sociaux à mettre mes dessins. Alors, ça n'a jamais été confrontant, en fait, pour moi.
Ok. Donc, ça, c'est venu vraiment de manière complètement naturelle.
Oui.
Ok. Revenons-en au travail d'édition. C'est un gros travail, je veux dire, lorsque l'on parle effectivement de texte. Alors, quel est-il ce gros du travail ? Est-ce que c'est plus trouver les textes ? Est-ce que c'est plus les mettre en forme pour qu'ils puissent entrer dans ce format-là ? Je veux dire, il faut aussi parler des césures, du papier, des polices, toutes ces choses-là. Ou est-ce que c'est le fait de distribuer ensuite avec cette particularité, cette astuce que vous mettez en place qui font que des contingences qui vous sont imposées d'une certaine manière, eh bien vous faites des qualités, notamment les formules d'abonnement, comme tu as dit, mais également les formats même. Alors, quel est le gros du travail quand on est éditrice ?
Tout. D'accord. Non, le problème, c'est le mélange du tout. C'est-à-dire qu'on fait ce métier au départ pour, c'est mon cas, et je pense que je peux parler pour Guy aussi, on fait ce travail pour le travail éditorial, c'est-à-dire pour être dans l'échange avec les auteurs et autrices, pour trouver avec elles et eux la meilleure façon de faire avancer le texte. Et souvent, voilà, c'est de travailler sur plusieurs mois et de voir comment le texte avance et le dialogue qui se met en place. C'est vraiment moi ça qui m'intéresse dans ce métier. Simplement pour le faire, moi d'être moi-même embauchée, il faudrait que je sois embauchée, je sais pas qui embauche. En Suisse, pas grand monde. En France, c'est aussi très fermé. Alors, à moins d'être embauchée dans une structure et que moi, je fais pas le reste, ben là, voilà, pour faire ce métier-là, je suis obligée de faire de l'administration, de la maintenance, enfin de la manutention, de penser à la fois, voilà, à répondre aux petits mails d'une personne qui comprend pas comment est-ce qu'on s'abonne, à en même temps essayer de penser à qui est-ce qu'on va contacter pour faire un projet en 2021. Donc c'est le mélange de tout ça en étant presque pas payé et en devant travailler sur plein d'autres mandats à côté qui fait que c'est
pour financer.
Voilà, c'est ça. C'est un peu ça qui est absurde, mais bon.
Alors comment est-ce qu'on s'abonne ?
Comment est-ce qu'on s'abonne ? Eh bien, oui. Via le site internet.
Voilà, parce qu'on n'a pas encore dit l'adresse du site. Il est temps.
C'est vrai, c'est www.paulette-editrice.ch.
Très bien, très bien. Alors, on l'a vu, c'est un gros travail que d'éditer tout ceci. Comment est-ce que vous décidez entre vous, aux éditions ? Est-ce que, voilà, il y a un moment donné, vous vous dites... On discute, on débat. Là, ce contenu-là nous paraît plus correspondre aux valeurs qu'on a envie de véhiculer. Enfin, comment ça se passe ?
Bien. Non, je pense qu'avec Guy, on a des univers esthétiques, artistiques assez différents. Mais sur la qualité d'un texte, en général, on est d'accord. Des fois, il y en a un qui est plus enthousiaste que l'autre, puis qui va convaincre l'autre. Mais en général, ça prend pas si long que ça. Et puis bon... Nous, on a ce format, on a ce format particulier. Il y a peu de textes qui sont adéquats. Il y a en fait finalement peu de gens qui écrivent du court, paradoxalement. Oui. C'est aussi ça, c'est difficile pour nous de trouver des textes qui ont le bon format et qui ont aussi on a une ligne éditoriale, mais elle est vague dans le sens. Les textes sont tellement courts qu'il faut que ce soit percutant. C'est comme dans la tête de Louisa, il faut qu'on entre tout de suite. Et puis même si on ne comprend pas tout bien ce qui se passe, on a envie d'y rester au moins pendant 8 ans de pages.
Au moins, oui. Tu parlais d'autres d'autrices et d'auteurs décédés dont vous prenez les textes. Qui sont-ils?
Ça sent le procès. Quels sont leurs réseaux?
Non, mais comment est-ce qu'on en arrive à ces textes-là? Est-ce que c'est des textes que vous avez lus? Où vous les avez lus? Enfin,
tiens. Alors, comme toutes les bonnes idées, c'est arrivé par accident. Au tout début de la refonte, enfin de la collection des Pives, on avait deux auteurs, enfin un auteur et une autrice, qui nous ont claqué la porte au nez juste avant la publication. C'était très 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 embêtant parce qu'on commençait la communication sur le catalogue, etc. C'était la première année, on était en pleine demande de fonds, enfin bon bref, c'était la galère. De là, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on trouve des textes qu'on n'a pas besoin, sur lesquels on n'a pas besoin de faire un travail éditorial pour les sortir quand même. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'aller chercher un texte libre de droit. Et que moi, j'ai eu l'idée, donc ça c'est l'idée de Guy, qui est beaucoup plus lettré que moi. Et moi, ma particularité, enfin ma compétence particulière, c'est d'aller très souvent au Québec et d'avoir fait un stage là-bas. Et donc, je connaissais une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions de ta mère, avec qui j'avais fait un stage de 6 mois et on avait un super bon contact. On a déjà dit qu'on voulait travailler ensemble, donc on les a contactés puis on a dit bon ben. Et je connais très bien leur catalogue, donc j'ai identifié un texte court. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à chaque année publier un texte, un texte ancien, on va dire, et un texte québécois. Et les textes anciens, c'est Guy qui déniche ces choses-là, c'est lui qui aime traîner dans les bibliothèques.
D'accord, donc ce sont des petites pépites découvertes au gré des déambulations dans des bibliothèques.
Le premier, c'était Arsène Houssaye, La vie rustique. C'était un Parisien qui retournait à la campagne, il avait une posture un petit peu très bourgeoise, qui était très risible aussi avec la distance du temps, etc. Mais surtout, en fait, il s'interrogeait sur la condition des animaux. Donc il y avait une espèce de réflexion vegan. Évidemment, c'était pas ça son propos. Il allait pas arrêter de manger de la viande, il fallait pas trop lui en demander. Mais il se balade et puis il regarde les cochons, puis il dit, on dit toujours qu'un cochon, ça peut vivre 70 ans, mais c'est faux, parce qu'on les laisse pas vivre autant que ça. Donc il avait des petites pistes, et puis même si le personnage est pas toujours très aimable, et ça me paraissait intéressant. Le deuxième, c'était Charles Moncelet, c'était le déjeuner à tout casser. Et là, c'était une correspondance justement de Charles Moncelet, aussi un Parisien qui adorait la gastronomie et qui envoie des lettres aux gens pour leur dire ce qu'il a mangé le jour d'avant. Donc là aussi, avec ces deux publications-là, on était dans un rapport pas tout à fait premier degré, troisième degré. On les publie, c'est pas vraiment un hommage, c'est juste montrer une parole qui a fait son temps et puis de se demander comment elle résonne avec aujourd'hui. Et puis Técombe, là c'est différent parce que Paulette est quand même une maison d'édition plutôt féministe. Donc on s'est dit là. Donc l'année passée on a publié une femme, c'est ça. Ça va, les vieux types qui ont écrit des livres, on en a assez, on les apprend à l'école, on les lit tout le temps. Je ne sais pas s'il faut qu'on en rajoute et qu'on aille les repêcher, je ne suis pas sûre. On a publié Lucie de la rue Mardru, là c'était son journal intime, ses mémoires. Alors là il y avait en plus tout un aspect découvert de sa bisexualité, donc là on était quelque chose de clairement plus intéressant d'un point de vue actuel et contemporain. Et Técombe, c'est ça, on s'est dit ce serait bien aussi de publier une autrice suisse, parce que pour l'instant on était allé tout le temps en France, et puis à trouver cette autrice militante pour la classe ouvrière, pour les droits des femmes, contre l'alcool. Là, en plus de la fiction, on a repêché deux nouvelles qui sont... La première, c'est « Comment son patron tuait les anarchistes », qui est un texte très ambigu. Parce qu'on a vu justement qu'on on a publié sur Facebook une news et puis ça a été repris par deux pages citoyennes, une genevoise et puis l'autre. Enfin bref, on s'est dit, c'est des milieux effectivement anarchistes libertaires. Mais en fait, le texte, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Je pense. Parce qu'en gros, c'est l'histoire d'un jeune ouvrier de 13 ans, comme on n'en fait plus, heureusement. Qui est orphelin et puis arrive chez un nouveau patron. Et puis, entre-temps, il a eu le temps, lui, il est entré dans des syndicats, il est devenu communiste, etc. Et il se dit, ce patron, moi, je vais pas me laisser faire. Et le patron lui dit, écoute, chez moi, tu seras bien traité, tu manges avec à la même table que mes enfants, tu vas être traité comme mon fils. Il y a une seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est de mentir. Et évidemment, ce jeune homme ment. Bah, pardon, je raconte tout en fait là, mais.
Oui, on peut acheter. Je connais l'histoire.
Non, mais la deuxième. C'est la deuxième ma préférée. Non, mais il faut voir. En fait, après, c'est intéressant de lire le texte pour essayer justement de trouver des indices de qu'est-ce. Que pense l'auteur et quel est son message ? Parce qu'en gros, bah voilà, l'ouvrier va se rebeller. Après, enfin, il ment. Son patron lui dit bon bah je vais te taper, je vais te punir physiquement. Et l'ouvrier dit non. C'est le patronat, il y en a marre. Vous n'avez pas le droit d'avoir ce pouvoir sur moi. Donc il se rebelle. Et puis il va dormir en dehors de la maison sous un arbre. Mais en fait, son patron lui amène à boire, à manger, une couverture, etc. Puis il dit, mais non, mais rentre à la maison, reviens, etc. Et au final, le jeune homme, enfin le garçon, hein, il a 13 ans, revient et accepte de se faire frapper. Et c'est comme ça, et là, il y a la femme du patron qui dit, ah bah oui. Non, c'est le patron qui dit, ah bah oui, c'est comme ça que je tue les anarchistes. Et du coup, on ne comprend pas si c'est un texte pour dire... Ça, ça n'a rien de se rebeller, il vaut mieux se soumettre. Ou si c'est pour parler de ce système du patronat, enfin, capitaliste très insidieux qui fait qu'on finit par se soumettre à ça. Mm-hmm. Mais c'est en cela que ce texte est aussi très intéressant, c'est parce qu'on n'est pas sûr.
Ça provoque le questionnement, quoi qu'il en soit. Après, chacun y apportera la réponse qu'il veut bien.
Voilà. Puis après, il y a un deuxième texte que je ne vais pas du tout résumer.
Ce serait bien quand même. Ouais. Non, mais
ça donne envie de lire. C'est vrai, je me moquais de toi, je raconte tout.
Ça donne super envie de lire. Ouais. Redis le titre.
Pardon, comment son patron tuait les anarchistes.
Et ça, donc, on le trouve sur le site internet.
Bon, le titre est d'elle, parce que des fois, quand on republie des choses, on peut changer le titre éventuellement. Mais là, c'est son titre à elle qui en dit long, peut-être, sur ce qu'elle pense. Encore que, je ne sais pas.
Est-ce que vous avez-vous rencontré des personnes qui inventaient des faux textes anciens? J'aurais envie que ce texte-là soit publié, je le fais passer pour un texte ancien. Est-ce que l'imposture, ça fait partie un peu du truc?
Non, alors on n'a pas eu ce cas-là, parce que les gens en fait nous proposent des textes contemporains, même des fois écrits de façon un peu vieillotte, pour se faire publier comme des auteurs contemporains. Ah. On n'a pas eu de. Non, mais en fait c'est drôle parce que bah, avec Guy, oh, oui, mais j'ai bu dedans.
Tu veux prendre un autre verre, hein?
Pardon. Mais cette question d'imposture est drôle parce que, bah, avec Guy, en fait, on fait aussi partie du collectif Ajar, collectif d'écriture.
Ajar de. Pourquoi Ajar?
Alors, à la base, en fait, c'était l'acronyme Association de jeunes auteurs romandes et romans. Mais évidemment que le clin d'œil à Émile Ajar, auteur fictif, enfin pseudonyme de Romain Gary, était un clin d'œil qu'on aimait bien.
Parce que nous, on est fans de Romain Gary. Quand même deux fois...
Prix Goncourt, oui,
pour ces deux
et puis,
autres.
Émile Ajar n'est pas son seul pseudo. Oh, absolument. Il a écrit plein de noms, etc. Donc oui, et d'avoir de rendre un clin d'œil à un auteur qui n'existe pas.
C'est pas anodin, je trouve, en tout cas, d'avoir cherché cet acronyme-là.
Bah, en fait, on a pris l'acronyme descriptif de ce qu'on était à ce moment-là, parce qu'on n'est plus si jeune que
et
ça.
Et ça a créé le destin.
Et ça a créé le destin, c'est comme ça. Et puis, en fait, on a créé une auteure fictive avec la Jarre qui s'appelle Esther Montandon pour un projet au départ d'exposition. On faisait croire au public qu'on avait écrit un faux inédit posthume d'une auteure, Esther Montandon. Puis à la fin, ce que les gens apprenaient, c'était qu'en fait, c'était l'autrice qui était fictive.
D'accord, voilà. Pas mal.
Ce qui a donné lieu plus tard à une publication d'un roman qui s'appelle Vive près des tilleuls.
Il s'est publié.
Non, là on a visé gros, on a eu le gros lot, on a été publié chez Flammarion.
Carrément, d'accord, effectivement.
Ça nous la coince, hein. On fait moins les malins les deux, on est là, hop.
Flammarion, ah bon. Est-ce que vous, de nouveau, dans le travail du choix éditorial, tout ça, est-ce que vous éditez également du théâtre ou de la poésie en prose? Je pense à ça également parce qu'on parlait des personnages fictifs, des hétéronymes de PSEA, par exemple, qui pourraient, pourquoi pas, habiter les éditions Paulette éditrice.
On a publié du théâtre, on a publié un auteur espagnol qui s'appelle Juan Mayorga, qui vient d'entrer à l'Académie espagnole. l'année passée. Donc lui, c'est un auteur de théâtre, et ce qui nous intéressait beaucoup, c'était qu'il fait des micro-pièces de théâtre. Parce qu'il dit, on juge jamais. Bah, alors là, on est typiquement dans un lieu d'exposition. Il disait, mais est-ce qu'on on dit pas qu'une œuvre d'art est plus une œuvre d'art si elle est grande que si elle est toute petite? Donc il disait, ça devrait être pareil pour le théâtre. C'est pas parce qu'on n'est pas obligé de faire une tragédie de 4 heures. En fait, en quelques minutes, on peut poser une situation très dramatique. Et puis, bah, voilà, comme en fait, c'était une de nos stagiaires, qui est par ailleurs traductrice, qui nous a proposé ce texte. Et puis, on a vraiment beaucoup aimé. Donc là, c'était notre premier texte de théâtre. Et on a publié justement un texte québécois qui s'appelle Hiroshima de Véronique Grenier, qui a eu beaucoup de succès au Québec, qui a un texte c'est très banal comme point de départ, c'est une rupture. Mais c'est dans une prose poétique très ciselée, très créative, etc. Puis là, c'était typiquement, si on n'avait pas eu l'abonnement, on n'aurait pas publié ce livre parce que les gens, ça leur fait peur. Enfin, déjà, c'est de la poésie, donc déjà, ça, les gens sont... Bon, moi-même, j'achète pas de poésie, donc tu peux bien dire.
Ah, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis là. Parce que, mais alors, pourquoi pas le format un peu aphorisme, tu vois, à la Cioran, un machin qui est entre la poésie en prose, d'une certaine manière, et la nouvelle, disons.
Bon, nous, de toute façon, avec Guy, on n'a pas de... Il y a pas... Tant que ça rentre dans le nombre de pages, si le projet nous plaît, si le propos nous paraît pertinent, on va y aller.
Alors justement, comment est-ce que les autrices, auteurs qui nous écoutent, qui auront envie, alors que ce soit texte ou dessin, puisque là c'est du dessin, parce qu'ici dans les parages...
Tant qu'il n'y a pas de couleur. Tant qu'il n'y a pas de couleur.
Pas de couleur.
Non, on n'en prend pas la couleur.
On n'aime pas la couleur. Hein. Non. Ça vous fait mal aux yeux. Ça brûle.
Est-ce que vous me déconcentrez pas? Oui, parce que nous, je voulais te questionner, Louisa, concernant des fanzines. As-tu travaillé également avec des fanzines? Je pense par exemple à La Bûche, qui est un fanzine de BD que certainement tu connais.
Oui, j'ai fait une ou deux fois, je crois, deux fois avec La Bûche. J'ai fait aussi pour Torchon, je sais pas si ça existe toujours, Le Dévaloir. Mm-hmm. Mais maintenant, moins. C'est vrai que je fais moins les fanzines. Parce que je sais pas pourquoi, on m'a moins proposé, et puis...
Ouais, mais ça, du coup, ça pourrait être des partenaires des Paulette éditrices, d'aller peut-être justement chercher des personnes qui dessinent ou qui écrivent dans des fanzines, telles que La Bûche, par exemple.
Tout à fait. Nous, on va toujours aller chercher... Après, quand on va aller chercher les gens, c'est souvent suite à une rencontre. Alors, on est en train de lancer un projet avec une association, mais qui est une association, enfin je ne peux pas trop dire parce que c'est pas encore vraiment lancé, mais avec une association politique, où là on voudrait sortir un texte plus politique, et c'est juste parce que je suis allée à un de leurs événements et leurs propos me semblaient tellement essentiels et finalement peu diffusés que on est allé les voir et on a dit bon, on est une petite maison d'édition, mais on aimerait travailler avec vous, et donc ça se fait comme ça en général.
D'accord. On va doucement arriver au terme de l'entretien. Avez-vous encore quelques minutes?
C'était un entretien? On a engagé.
Non, mais j'aime pas dire un
entretien. Ça veut dire. Tu savais, toi?
Tu connais le mot entretien avec un emploi?
J'ai compris.
Ça rendait mieux dans sa tête.
Le gars qui était compris dans ma tête.
Ça rendait mieux dans sa tête. Le livre édité à Paulette Éditrice de Louisa.
Oui.
De Louisa, des dessins. Combien de pages? 80 à chaque fois, on a dit. Hein.
88.
88
gags.
88 gags dessinés comme ça, au stylo. Finalement, tu n'as pas répondu à la question. Comment est-ce que les personnes peuvent vous solliciter en disant, voilà, moi j'ai un bout de texte ou j'ai un dessin et j'aimerais, pourquoi pas...
Sur notre site, sauf erreur, il y a une page qui parle, donc je crois qu'il faut cliquer sur la description de Paulette et c'est marqué, il y a un moment manuscrit et c'est noté le nombre de signes, parce que donc, c'est 50 000 signes, espace compris, en moyenne, et puis il faut nous l'envoyer par mail. Ça ne sert à rien de l'envoyer par la poste parce que ça... on n'a pas de bureau, donc on va devoir se passer. Ça va encore rallonger le temps pour qu'on puisse lire les deux manuscrits. Donc non, il faut nous envoyer par PDF.
Ok. Voilà. Vos aspirations, quelles sont-elles? Est-ce que, pourquoi pas, vous pourriez exister matériellement vis-à-vis des personnes qui, j'ai bien compris, passent beaucoup par le site internet? Mmh. Et là, tu viens de le rappeler avec le fait d'envoyer des mails. Mais est-ce que les éditions pourraient, pourquoi pas, exposer également une fois pour montrer ce que c'est que le travail d'édition, le catalogue également, dans un lieu comme ça. En fait, je voulais te poser la question comme je l'ai posée à Louisa, tu l'auras compris.
C'est-à-dire nous on fasse plutôt s'exposer dans des dans des salons, dans des foires, mais aussi des fois des des marchés de Noël, enfin des marchés qui n'ont rien à voir avec le livre, mais plus en lien avec la jeune création contemporaine. C'est plutôt dans ce cadre-là qu'on s'expose. Après, organiser un gros événement, c'est toujours la même chose, quoi. C'est une question de ressources en temps, quoi, principalement, parce que on travaille les deux à côté, on fait plein de mandats, et c'est vrai que, c'est pas très sexy à dire, quoi. On devrait toujours défendre qu'on a la foi tout le temps et qu'on donne tout notre temps bénévolement parce que c'est ça qui est beau. Mais on fait comme on peut, et c'est vrai que Paulette aspire à peut-être se faire plus entendre politiquement, je dirais.
Oui, je comprends ça. Alors du coup, le texte, vous allez aller justement vers le texte politique, ça, tu l'as dit, vous faites un premier pas là, dont on en saura peut-être un peu plus loin.
C'est ça, j'ai raconté tout le livre avant, mais là,
voilà, ça c'est une option vers laquelle vous avez envie de vous diriger un petit peu. Là, c'est le premier volet de la question. Et le deuxième volet, est-ce que, pourquoi pas, parce que quand on parle texte politique, on parle aussi beaucoup de discours politique. Est-ce que le format audio que l'on met en texte ou le texte que l'on met en audio seraient des options qui vous habiteraient?
Oui, sur le texte politique, effectivement, on adore toujours la fiction. Mais on se rend compte que le milieu dans lequel on évolue, le milieu littéraire, s'endort un peu des fois sur ses lauriers. On parle des choses depuis très très loin, et il y a plein de choses à dire sur le milieu littéraire au niveau, impératif de représentation, de diversité, etc. Ça, c'est des questions qui sont très présentes, dans les milieux nord-américains peut-être plus. Alors que j'ai l'impression qu'en Europe, on a tendance à évacuer ces questions parce que la fiction, c'est la fiction, la littérature, c'est la littérature, on va pas s'emmerder avec des questions sociales. Et alors que, non, la littérature, c'est des mots, ces mots existent, ces mots ont un sens, ces mots portent un message, et donc c'est important de les utiliser aussi pour, en leur donnant la valeur qu'ils ont. Donc c'est pour ça que là, Paulette se réveille un peu.
Et puis concernant le côté audio.
Oui, c'est ça. Côté audio, moi, c'est quelque chose. J'écoute beaucoup, 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 beaucoup de podcasts. Et clairement, quelque chose vers laquelle j'aimerais aller. C'est vrai que quand on a commencé Paulette, on avait cette réflexion, donc d'un point de vue déjà écologique, ne pas trop tirer, économique, réinvestir dans l'économie locale. Mais on avait évidemment le volet social. Et pour nous, c'était important que nos textes soient accessibles en même temps, par exemple, à des personnes malvoyantes. Et donc on avait ce projet au départ de sortir une version audio de tous les textes. Du coup, tes dessins, Louisa, ce serait en audio description.
Oh, ce serait génial.
Ce serait super chouette. On fait ça, nous, on fait les audio descriptions des expos. Ah. Et les peintresses et peintres qui viennent sont ravis quand je leur propose ça, parce qu'ils me disent, on sait pas trop comment décrire notre univers. Puis je leur dis, vous inquiétez pas, on va faire une visite commentée, et moi je vais vous questionner, on va partir de mon point de vue, parce que ça va juste créer un moment zéro, et puis ensuite ils partent, ils s'envolent, il faut les arrêter à un moment donné. Donc mais c'est extrêmement intéressant de faire ça, ouais.
Donc voilà, on voulait faire ça, mais c'était compliqué parce que, en fait, comme c'est un projet assez hybride, pour trouver des subventions pour ça, c'est compliqué.
C'est compliqué.
On avait mis ça en place au début, on l'a laissé dormir, mais je pense qu'on va y revenir très, très clairement.
Alors, tu parles de collaboration. Est-ce que le monde de l'édition est un monde de sauvages, ou est-ce que, avec d'autres éditions, avec certaines associations pairs, vous vous entendez bien? Je pense à Lausanne, il y a les éditions d'en bas, il y a différentes entités comme ça, avec lesquelles j'imagine que vous entendriez bien, à moins que ce soit déjà le cas.
Oui, je ne sais pas si le monde de l'édition est un monde de sauvages. Guy et moi, on est des sauvages, un peu. Il faut bien le dire.
Je dirais, il y a des collaborations sur un travail éditorial.
Oui, on adore les collaborations, mais on va plutôt chercher en dehors du monde, du petit monde littéraire. C'est pas une affaire de compétition, une affaire de
singularité.
Vibe.
Et puis, bien entendu. Typiquement, à Lausanne, il y a par exemple le CIRA, Centre international de recherche sur l'anarchisme, qui est une archive, pour le moins mondial, et qui contient des textes inédits, rarissimes, invisibles parce qu'ils sont là et puis ils sont nulle part ailleurs, dont il serait incroyable, le travail serait titanesque. Donc ça pourrait être une piste, par exemple. Et c'est une ressource qui est en plus à Lausanne et qui est inépuisable, mais pour de vrai, inépuisable. Il y a les langues. parce qu'il y a toutes les langues là-dedans. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites également, un travail de traduction? Tu en as parlé tout à l'heure.
Oui, on l'a fait en espagnol, voilà. Mais en grec aussi. On a une auteure contemporaine grecque qu'on a fait traduire. Donc on aime, oui.
Donc ça, c'est aussi quelque
chose. Mais c'est une question de sous, hein, principalement.
Ouais,
c'est
ben, bien sûr.
C'est le nerf de la guerre, c'est terrible.
Bien sûr, parce qu'un interprète qui fait ce travail-là, je pense qu'il faut la pointer. Ça va être des sommes assez faramineuses.
Oui, c'est normal, parce que c'est un travail énorme. Mais voilà, là, on a toujours trouvé des arrangements. On a trouvé des arrangements.
Ok. De quoi avez-vous besoin pour continuer votre route? Est-ce qu'on peut lancer un petit appel ou deux?
Du flou.
Les personnes peuvent faire des dons, je ne sais pas.
Alors, vous pouvez, quand vous vous abonnez, vous pouvez prendre l'abonnement. Alors, l'abonnement à 6, c'est 84 francs, mais c'est possible de faire un abonnement Paulette Mon Amour à 120 francs, donc avec un petit don en plus. Non, effectivement, ben, je sais pas, s'abonner, en parler autour de soi.
Vous inviter peut-être à un endroit, un salon un peu spécial ou des choses où, en tout cas, créer des rencontres peut-être que là
créer,
aussi.
Créer des rencontres, mais je pense surtout, il nous faut des abonnés, des gens qui nous suivent.
Ouais.
Niveau presse, niveau reconnaissance publique, on a ce qu'il faut, je dirais. Enfin, dans le sens, ça roule. Bien sûr, on peut toujours en demander plus. C'est clair, mais c'est plus au niveau de, ben voilà, les gens connaissent pas ce qu'on fait. On se rend compte aussi que les gens, voilà, vont faire attention. La plupart des gens maintenant font attention à ce que leurs tomates viennent de Suisse et non pas d'Espagne. Mais c'est vrai que les personnes regardent rarement l'impressum pour savoir, enfin l'achevé d'imprimer, pour savoir où a été imprimé le texte.
Oui.
C'est dans ce sens-là aussi que je dis que Paulette essaie de devenir un peu plus politique, parce que il ne s'agit pas de taper. C'est clair que c'est difficile de survivre dans le monde de l'édition sans imprimer à l'étranger. Parce que sinon la marge est trop petite, donc on comprend d'où ça vient, mais on pense qu'il faut faire, il y a un effort à faire et que les pouvoirs publics devraient aussi un peu suivre et souligner.
Oui, puis il y aurait des mesures d'encouragement qui pourraient être mises en place, en tout cas. Y a-t-il des librairies, des libraires avec lesquels vous travaillez?
J'adore le boulevard.
Le boulevard à Genève, Basta, l'équivalent un petit peu lausannois,
voilà.
Qui est une coopérative également.
Donc le boulevard et Basta, c'est vrai qu'ils nous commandent des livres régulièrement. Bah, d'ailleurs, Basta, on va faire le vernissage de Ça rendait mieux dans ma tête le 16 mai.
Génial.
Voilà.
Rue Maupas, c'est ça, non, Basta?
C'est pas rue du Maupas, je crois. C'est rue du 7 des Cèdres ou quelque chose. C'est vers la rue du Maupas, mais je crois que c'est pas la rue
c'est
du
Maupas. C'est Place Chaudron, puis
en décembre.
D'accord. Ça, ce sera annoncé sur... comment c'est annoncé?
Il y a un événement Facebook.
Voilà,
normalement, c'est sur notre site.
En tout cas, c'est sur le mien. 20 000 fois. Toutes les pages. Le 16 mai. C'est annoncé maintenant. Écoutez bien, prenez votre stylo. 16 mai.
Le 16 mai. De toute façon, on mettra ça au libellé du podcast également. Dernière question, puis après, j'aurai encore deux, trois petites questions pour toi, Louisa,
okay. Si t'es d'accord? Yes.
Mais je veux pas non plus, si vous avez un train ou quoi, faut me dire.
Tout va.
Le train de la life.
Le train de la life.
On prendra plus tard. Excellent.
Y a-t-il des autrices ou des auteurs comme ça que vous avez envie particulièrement d'éditer? Est-ce qu'il y a des petites perles comme ça pour lesquelles vous attendez un peu, ou... Tu vois ce que je dis, dans le sens où, typiquement pour la radio, c'est pareil. Hein. Moi, il y a des fois des trucs que j'ai vraiment envie de faire, puis je me dis, pas maintenant, on va attendre un peu, puis là maintenant, je le sens.
C'est juste que, dans la vie en général, on s'est rendu compte avec mon collègue que, Flaubert le dit dans Madame Bovary, ne touchez pas à vos idoles, la dorure vous restera sur les doigts.
Ah,
je crois que c'est ça.
D'accord.
Plus ou moins. Okay. Comme j'ai dit, Guy est beaucoup plus lettré que moi, donc lui, il est citré de façon plus exacte.
Touche pas la star, c'est doré.
Tes doigts, ils vont être dégueu.
Pas de caver les mains.
Donc je sais pas. Moi, quand ça brille trop, je me méfie maintenant. Donc voilà, j'attends que... soit des projets bien précis.
Là, c'est fini. On ne la récupère pas.
J'ai beaucoup aimé ta chute sur ta...
Mais pourquoi tu n'as pas un carnet? Ça va être une esquisse toute toute, ça.
On fonctionne bien les deux. Hein.
Ouais. Mais non, parce que les réunions sont trop longues, parce qu'on rigole trop, en fait. C'est terrible. Donc, non, les auteurs absolus, je crois que je préfère les lire. Là où ils sont déjà, et puis découvrir plutôt bah, des auteurs qui n'ont pas encore eu la chance d'être publiés et puis de travailler avec. C'est ce qui se passe en ce moment là. On publie en juillet un texte d'un jeune auteur qui s'appelle Émile Fleuve, c'est un nom de plume, et qui publie, enfin voilà, c'est son premier texte, enfin il a déjà écrit avant mais il n'a jamais été publié, et on a fait ce travail pendant 6 mois de l'accompagner, et voilà, on voyait toutes les promesses du texte dans le propos, dans la force du propos, mais dans la forme il y avait plein d'incertitudes, plein de maladresses qui sont normales, hein. il a 22 ans, donc ça me paraissait bien normal. Mais le dialogue a été super aussi parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore un gros ego en littérature. C'est aussi ça qui fait que c'est aussi intéressant de travailler avec des gens qui comprennent que c'est un processus, puis à qui on n'a pas trop mis de laurier sur la tête. Et puis, voilà.
Et puis après, il y a tous ces auteurs secrets qu'il faut découvrir. Hein, parce qu'on sait qu'on c'est beaucoup après sa mort qu'on a découvert plein de textes. Aloysius Bertrand à qui Baudelaire promet d'être édité, mais une fois que sur son lit de mort, d'une certaine manière. Enfin, il y a des exemples quand même assez sympas. Alors, on va rappelle peut-être le site internet encore.
Oui, www.paulette-editrice.ch.
Très bien. Et alors maintenant, pour faire la petite transition avant d'en finir avec toi, Louisa, oui. Aurais-tu, Louisa, une question pour Noémie, et Noémie aurait-tu une question pour Louisa? Comme ça, moi,
une question.
Je bois un coup. Ouais.
T'as une question pour moi. Est-ce qu'il faut qu'on parle? Est-ce que tout est OK entre nous?
Comment est-ce qu'on va faire? Parce que normalement, dans les vernissages, on fait un moment de lecture.
Ah.
Du coup, qu'est-ce que...
Je décris comment tu disais
avant. Qu'est-ce que tu vas faire le 16 mai? Ce sera quoi l'intérêt pour les gens de venir au vernissage? À part le vin gratuit et les flûtes.
Bah, ils pourront déjà l'acheter.
Oui.
J'espère que je compte bien sur la famille. Je sais pas, parce que je savais pas qu'il fallait mettre une petite ambiance à ce vernissage.
Non, mais je la prends maintenant. Tu vois.
Donne-moi 2 jours.
C'est pas un impératif. Hein.
Je pense que je vais faire un petit spectacle.
Ok. Marionnette, sans marionnette. On n'a pas de budget.
Hein. Il n'y a pas de scène.
Non.
Peut-être que je ferai une petite lecture.
Ou alors la liste de courses. Stand-up.
Je crois que c'est déjà parti. Réservez vos places.
16 mai, donc le 16 mai, oui. Ce sera à la librairie Basta.
Oui.
Donc c'est à Lausanne. Comment est-ce qu'on s'y rend en bus? Enfin, on arrive, pour les jeunes voix, on arrive en train.
Après vous prenez le 3 ou le 21. 21 ou bien le métro.
Ou bien le métro. Ouais.
Et vous sortez à l'arrêt, c'est quoi? Chaudron.
À l'arrêt Chaudron.
Mais pas en métro, il n'y a pas d'arrêt.
En bus, Chaudron.
Ouais. Et sinon, c'est Flon. Oui.
Et ça vaut la peine de venir découvrir cette librairie Basta qui est fantastique. Il y a une coopérative. Il y a un coin livre pour enfants également. Pour ceux qui ont des enfants, ils peuvent venir acheter des bouquins sympas pour leurs gosses.
Et
pour les grands enfants, il y a aussi plein de textes politiques à Basta.
Oui, beaucoup.
Et puis pas loin, si jamais. Il y a encore le cinéma, ça existe encore?
Oui.
Donc si ça se trouve, la personne après, le soir, on peut aller voir un
tout
petit
à fait.
Film.
Elle peut aller au cinéma. Qu'est-ce qu'elle peut faire encore au MOPA?
Au MOPA, elle peut aller à l'académie de coiffure.
Non, il y a des terrasses, non, un peu par là. Il y a 2-3 petites terrasses. Je sais pas, mais ça fait longtemps.
Il y a la micro-métropole.
Micro-partenaire. Venez surtout à Basta, déjà, c'est déjà un premier pas.
Le site internet, site internet à toi.
Alors, c'est aller plutôt sur Instagram.
Ok.
Beaucoup plus mise à jour. Louisa_illustration.
Ok. Et puis tes prochains projets, est-ce que certains t'habitent déjà, comme ça, dont tu auras envie de nous parler?
J'ai une expo en décembre à l'espace Richter-Burgsdorf.
Ça c'est à Lausanne aussi?
Ça c'est à Lausanne aussi, c'est sous gare. Je suis en train de travailler sur un projet musical, animé.
Donc toi tu ferais l'illustration
un peu de tout.
De la bande son, ou tu fais aussi de la musique?
Ouais, je veux lancer des nouveaux, je veux avoir plus de cordes à mon arc. Mais c'est vraiment de l'ordre du fantasme en ce moment.
Ah, donc ça, c'est pas encore...
Ayant de la suite dans les idées, je pense que je fais en sorte à voir le jour d'ici quelques temps.
Oui, parce qu'il y a des... Enfin, l'idée, par exemple, ce serait d'avoir un écran géant et de dessiner pendant que la musique
accompagne. Ce serait vraiment un dessin animé.
D'accord. D'autres projets qui arrivent ou...
Qu'est-ce que je vais faire? Partir en vacances, peut-être?
Ça, c'est pas mal.
Sinon, des commandes, mais c'est des commandes de travail, c'est pas forcément très intéressant. Mais surtout l'expo en décembre.
Ouais. Ok. Parce que, voilà, ce type de dessin-là, comment est-ce qu'ils surgissent? comment ils te viennent à l'esprit? Est-ce que c'est, voilà, tu as toujours un carnet avec toi et puis tu dessines un petit peu partout ou c'est très différent?
Ah non, je dessine que chez moi. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas faire quand il y a du monde. Des fois, j'écris un peu des textes et puis bah, j'écris comme un peu tout le monde sur notes, ouais. Application. Mais sinon, bah, ça me vient comme ça, je dessine. Des fois, je fais... comme, je ne sais pas comment les autres gens fonctionnent, mais je me balade dans la rue, j'ai une idée, je la garde pour plus tard et puis je redessine à la maison.
Puis à la maison, au calme, ouais. Tu fais ça. Ok. Ouais. Voilà, nous, on observe différents fonctionnements, très, très différents. Ouais. Effectivement, à chaque fois qu'on fait des interviews, on en fait quand même pas mal de ce côté-là. C'est assez marrant. Y a-t-il des thèmes comme ça, plus que d'autres, qui vraiment t'interpellent ou c'est vraiment, ça peut venir...
Il y a des thèmes qui m'interpellent pendant 2 semaines, ça devient une sorte de monomanie, après je change. Mais là, dans Salon des Mieux dans ma tête, c'est pas mal sur l'introspection. Mmh. Oui, c'est des dessins que j'ai fait en 2018, c'est pas mal quand même, un peu sur le yoga. Maintenant, mon travail est moins sur le yoga, mais c'est... comment t'as mis dans le dossier de presse sur la santé mentale?
Ouais.
La santé mentale, ça c'est un truc qui est assez récurrent. C'est le fil conducteur de ma vie. Ouais. Mais il n'y a pas des thèmes précis. Je ne pourrais pas dire que mon travail est féministe ou bien militant. C'est vraiment par vague.
Transversal et puis...
Voilà. Okay. Ouais.
Est-ce que c'est du dessin? Enfin, le dessin, c'est d'un trait? C'est immédiat? Ou bien tu dessines un bout, tu laisses un peu de côté?
Ah non, c'est immédiat. Le dessin ne doit pas me prendre plus de 3 minutes.
Ça, c'est une règle que tu t'imposes?
Pas le temps de niaiser. On n'a pas le temps de niaiser, Noémie. Non.
Ça, c'est quelque chose que tu t'imposes ou ça vient comme ça?
Ça vient comme... J'ai toujours travaillé comme ça. Je travaille pas au crayonné, c'est direct au stylo. Si c'est moche, c'est pas grave.
On gomme pas, je veux dire.
Non, j'adore l'art brut pour ça. Enfin, il y a dans le travail de l'art brut, il y a aussi des travaux très léchés. Hein. Mais j'aime le côté spontané, qu'il ne soit pas académique. Enfin, un truc très... très jeté comme ça.
Il y a un musée de l'art brut à Lausanne, est-ce que ça t'inspirerait de t'y balader? Tu pourrais...
Ah oui, j'habite à côté, j'y vais souvent.
Ouais.
Bah, avant d'aller chez Basta, aller au musée de l'art brut, la collection de l'art brut.
C'est une excellente
idée. Oui,
c'est une nouvelle buvette en plus.
Il y a une nouvelle buvette qu'on a testée les deux, pas ensemble, mais qu'on a testée.
Oui. Y a-t-il une expo tempo en ce moment?
Oui, c'est japonais, c'est le Japon, non? Je crois, mais je sais pas jusqu'à quand.
Je suis juste allé à la buvette. Façon,
Noémie, on la croit juste à la buvette. Hein.
Ah, c'est les éditrices, les éditeurs, hein, franchement. À part ça, il y a des bouts de texte également.
Oui.
Pourquoi?
Parce que je crois que ça complète pas mal. Je travaille aussi la poésie en ce moment. Et soit c'est des fragments de mon esprit, soit c'est des... je pense que ça va avec... Mon dessin ne résumerait pas que... coup dessin en fait. Ouais. Je pense que c'est complètement complémentaire et l'un sans l'autre ça n'est rien.
D'accord.
Mais ouais.
Ok. Il y a un combat entre la place du texte et du dessin qui se mène dans ta tête?
Non, pas un combat du tout.
D'accord.
Non, du tout. C'est plutôt une bonne cohabitation.
D'accord. Ouais. Un bon voisinage et puis...
Ah oui.
D'accord. Très bien. Rappelle donc Instagram, tu as dit?
Oui. Louisa avec un Z. _, je sais pas rendu comment. Toi qui es très lettré.
Tiré en bas.
Sous l'illustration au singulier.
Et puis alors, tu es à la recherche peut-être de lieux d'exposition là aussi. Est-ce que si on pouvait lancer comme ça un appel?
Ah non, comme j'ai cette expo avec Richter Butzoff, je cherche des sous. Ouais. Moi, je suis monomaniaque des sous. Ouais. Non, c'est pas vrai. Mais peut-être, c'est vrai que. D'acheter, c'est con, mais pour en soutenir les artistes locaux, c'est rien que d'acheter la pive, s'abonner à Paulette, ou bien, c'est con, mais liker un truc sur Instagram, ça fait de la visibilité. Il y a souvent des gens qui me disent « Ah, j'ai adoré le dessin que tu as fait, mais pas de like, pas de rien. » Puis en même temps, c'est cool de le dire, mais c'est vrai que si, en soutenant les pages, ça aide quand même pas mal, parce que l'air de rien, après, quand nous, on cherche des subventions... s'il y a plus de likes, les gens qui donnent l'argent, ils sont peut-être plus... L'air de rien, c'est vrai que ça coûte rien. Ouais. Pour les gens qui n'ont pas le budget, parce que des fois, on me dit « Ah, mais j'adore ce que tu fais, mais c'est trop cher. » de le dire, d'envoyer un petit message, ou bien de liker un post, ça fait beaucoup.
Ben voilà.
Enfin, je trouve, je sais pas, toi...
Moi, j'ai pas de likes sur Instagram.
loser.
Vraiment.
Pour ceux qui n'ont pas Instagram... y a-t-il également ou ailleurs? Peut-on se trouver ailleurs?
Sur Facebook aussi, mais même sur Instagram, comme je n'ai pas un compte privé.
D'accord.
On peut voir, on a accès. Ouais.
Ok. Merci beaucoup, Louisa. Merci beaucoup.
Merci
Noémie.
À toi.
Y aurait-il une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez souhaité répondre? C'est à vous.
J'ai bien mangé ce matin.
très bien.
Ouais. Ah, t'aimes quand on te demande ça, toi.
T'as bien mangé, toi, ce matin.
C'est quoi le menu? Quel est le menu?
Elle m'a dit, je sais. Je vais vous dire ce qu'elle a mangé.
En tout cas, on peut dire qu'on n'est pas intimidé à la radio. Hein? Vous êtes à l'aise, non? Non, parce que des fois, typiquement, après, je vais faire le tour un peu des artistes ici, et je sais déjà que certains détournent le regard quand je m'approche d'eux. Ah. Donc moi, j'insiste pas, parce que je veux vraiment pas les mettre mal à l'aise.
Ouais, mais nous, on était prévenus, on est venus exprès.
Et puis, on a un binôme.
C'est ça. C'est pour ça, d'accord.
Non, j'ai tendance à faire la maline, du coup c'est vrai que c'est pas un exercice très difficile.
On a besoin d'un petit animal de foire. Après,
Mais après dans le bus on tire la gueule, hein. je suis allée trop loin.
On a rarement l'occasion de faire des... C'est soit on est invité en tant qu'éditrice, oui. Soit après il y a les auteurs, autrices qui sont invités. Du coup je trouve ça sympa de faire ça ensemble.
Puis on voit, enfin j'ai l'impression que c'est une radio qui se veut aussi justement un peu anarchiste.
Ah oui.
Alors peut-être qu'on se permet des petites frasques de liberté qu'on se permettrait pas sur des chaînes plus.
Absolument.
Tu nous dis, faut me dire.
Ah non, mais non, moi je suis.
Il y a un sur deux qui vont être coupés au montage.
La radio.
Vous verrez, on ne coupe pas grand chose. On n'invite que les gens qu'on aime bien et qu'on a envie vraiment de. Voilà. Alors, Apollette éditrice, ça rendait mieux dans ma tête.
Oui.
De Louisa et l'exposition
le vernissage,
le 16 mai à la librairie
Basta
à Lausanne. Merci beaucoup.
Merci à toi
et bonne continuation.
Pareil. Yes, merci.